Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et les primaires démocrates vont bientôt rentrer dans le vif du sujet, ça sera au début de la semaine prochaine.
Eh oui, c'est lundi en effet que dans le petit état rural de l'Iowa va avoir lieu le premier vote visant à départager les 25 candidats officiellement en lice pour l'investiture démocrate aux élections présidentielles de novembre. Alors, au niveau national, les sondages montrent une étonnante stabilité de l'électorat démocrate. Cela fait des mois que Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, domine d'une courte tête, environ 30% des intentions de vote. Mais il est suivi par les deux candidats de la gauche du parti, Bernie Sanders, 23%, et Elizabeth Warren, 14%. La seule surprise du moment, c'est l'arrivée parmi les favoris de l'ancien maire de New York, Mike Bloomberg, l'un des hommes les plus riches du monde, la 11e fortune du monde. Avec 9%, il ravit la 4e place à Pete Buttigieg, qui est à 8%. Alors voilà, ces 5-là forment désormais le peloton de tête. Mais rien n'assure que le prochain candidat ou la prochaine candidate démocrate à l'élection présidentielle se trouve bien parmi ces 5-là. Les 4 premiers cités sont en effet lourdement handicapés par leur âge. Alors que les élections de mi-terme se sont traduites par un formidable rajeunissement des représentants démocrates, Joe Biden a 77 ans, Bernie Sanders 78, Elizabeth Warren 70 et Mike Bloomberg lui-même en a 77. Alors certes, le cinquième Pete Buttigieg, lui, est jeune, mais peut-être trop pour le job. Il a 37 ans. Trop jeune ou bien trop modéré. Pour se repérer dans la jungle d'un parti en pleine recomposition après le choc que lui a infligé la victoire inattendue de Donald Trump, on lira avec profit l'article que vient de publier la revue Le Débat dans son numéro de janvier-février. Sous le titre « Nouvelle gauche américaine », les auteurs, Célia Belin et Paul Zayac, dressent un tableau très éclairant des tendances qu'on peut distinguer actuellement au sein du Parti démocrate. Comme le suggèrent les auteurs, chacune d'entre elles s'ancre dans une interprétation spécifique des causes de la victoire de Trump. Alors vous avez l'establishment du parti, c'est classique. Pour eux, l'élection de Trump a été un accident. Après tout, en nombre de voix, Hillary Clinton devançait largement le candidat républicain. Donc, sa stratégie de coalition, des cols bleus, des minorités et des diplômés doit être maintenue. La victoire passe par la reconquête des vieux fiefs démocrates du Midwest comme la Pennsylvanie ou le Michigan, où les électeurs appartenant à la classe ouvrière doivent avoir compris aujourd'hui que Trump décidément n'était pas leur héros. Joe Biden, qui a qualifié l'élection du Donald d'aberration, est le représentant de cette tendance.
Et puis ensuite, Brice, vient cette gauche sociale.
Alors pour ses animateurs, Donald Trump est le symptôme du décrochage des classes populaires et moyennes. Le parti de la gauche américaine s'est trop identifié aux élites des deux côtes. Il faut à présent qu'il s'attaque aux inégalités de revenus qui se sont lourdement aggravées aux États-Unis depuis la crise financière de 2008. Barack Obama, bien sûr, devait sauver les banques afin d'éviter l'effondrement du système financier, mais cela a été ressenti par une partie importante de l'opinion, notamment à gauche, comme la preuve de la collusion des élites politiques et financières. Il faut donc assumer un programme qu'on qualifie aux États-Unis de socialiste. Et c'est celui que proposent de leur côté Bernie Sanders et Elizabeth Warren. Vient ensuite ce qu'on appelle la gauche des minorités. Pour ses partisans, Trump a été élu grâce aux voix des blancs racistes. Il est l'incarnation du « white lash », un néologisme formé à partir du mot « backlash ». Or, les dernières élections ont vu, je le disais, l'arrivée à la Chambre des représentants d'une pléiade de jeunes militants et surtout de jeunes militantes de gauche issues des minorités ethniques. La plus connue, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a 30 ans, elle a été élue à New York, mais plusieurs candidats s'apparente à ce courant qui s'adresse également aux LGBT. On peut parler de Kamala Harris, qui est sénatrice de Californie tout de même, hein, ou encore de Cory Booker, le sénateur du New Jersey. Enfin, il existe un courant que les auteurs de l'article qualifient d'extrême centre. Pour s'étonnant, ce qui a provoqué la victoire de Trump, c'est la polarisation, c'est l'hystérisation de la vie politique américaine. La victoire de l'opposition démocrate passe donc par un apaisement politique. Ils mettent en avant, ces gens-là, leur capacité à trouver des compromis en abordant les problèmes de manière désidéologisée et près du terrain. Leur représentant, le mieux placé dans les sondages, c'est ce fameux Pete Buttigieg. Il est marié avec un homme, mais il affiche une vie personnelle rangée. Il prône des valeurs de liberté, de sécurité qui sont compatibles avec les préoccupations habituelles de l'électorat démocrate modéré, tenté hier par Trump. Alors voilà, les électeurs démocrates n'ont que l'embarras du choix. Leur problème serait plutôt, selon Patrick McGinnis, le FOBO, ou Fear of a Better Option. Lorsque vous êtes confronté à une multiplicité de choix qui semblent tous se valoir et que vous ignorez ce que l'avenir vous réserve, il est très difficile de trancher. Et vous êtes enclin à conserver toutes les solutions disponibles le plus longtemps possible. C'est ce qui arrive au Parti démocrate. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, vous me direz, parce que c'est en juillet, à Milwaukee, dans le Wisconsin, que se déroulera la Convention nationale démocrate. Et nous saurons alors quel est le candidat que les électeurs démocrates estiment le mieux placé pour empêcher Donald Trump de rempiler à Washington.